Bienvenue sur Europe 1.
C'est clairement une brèche contre l'impunité des multinationales. En France, on a les yeux tournés vers Total, qui lui est aussi ciblé par un procès pour sa responsabilité dans le changement climatique.
C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence et accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, des juges ont condamné un géant pétrolier, Shell en l'occurrence. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 48 heures au Rwanda, visite historique pour tout un peuple qui attend des excuses 27 ans après le génocide. Et puis, le code de la route fête ses 100 ans, mais les délais pour obtenir le permis de conduire n'ont jamais été aussi longs. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
L'économie redémarre très fort. Il va falloir petit à petit apprendre à vivre sans la perfusion des aides publiques. La sortie du quoi qu'il en coûte se dessine lentement.
Le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport, Virginie Fulpin.
Alors, il portait quoi comme vêtements, Karim Benzema, en arrivant à Clairefontaine? Est-ce qu'il avait l'air content? On a fait le tour de la question, je crois, maintenant. Place au bleu et à l'euro.
Et puis, juste avant 7h30, on retrouve Stéphane Bern, bien sûr, pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a les paroles et puis les actes. Celui-ci en est un, il est signé de la justice néerlandaise qui a condamné hier le géant pétrolier Shell pour ne pas respecter l'accord de Paris sur le climat. C'est une décision historique parce que c'est une première et parce qu'évidemment, elle pourrait faire jurisprudence. Marion Gauthier.
Shell, deux fois les émissions de CO2 des Pays-Bas et peu d'investissements dans le renouvelable. Shell, contraint par le tribunal d'abandonner des projets pétroliers. Une histoire de David contre Goliath, inspirante, se réjouit Donald Pauls, le directeur des Amis de la Terre, qui remporte la victoire contre le mastodonte.
Ce qui semblait impossible est maintenant réalité. Les plus gros pollueurs ne sont plus immunisés contre la transition écologique. Je rentre chez moi, sachant que le monde paraît bien plus beau aujourd'hui qu'il n'était hier. Merci.
Ses avocats ont fait valoir le droit à la vie avec 17 000 citoyens néerlandais qui se sont portés partie civile. Leur victoire augmente la pression sur toutes les entreprises polluantes, souligne Juliette Renaud de l'association en France.
C'est clairement une brèche contre l'impunité des multinationales. En France, on a les yeux tournés vers Total, qui lui est aussi ciblé par un procès pour sa responsabilité dans le changement climatique.
Depuis les accords de Paris de la COP21, des objectifs environnementaux sont fixés aux États et pour la première fois, une entreprise est tenue de rendre des comptes.
Les précisions de Marion Gauthier pour Europe 1.
C'est un déplacement hautement symbolique qui débute ce matin. Emmanuel Macron est attendu au Rwanda.
27 ans après le génocide et quelques semaines après un rapport pointant les responsabilités de la France dans ce massacre, à Kigali, les Rwandais attendent des excuses. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Rémy Baudot.
Pierre Caliganiré avait 16 ans en 1994. Rescapé miraculeux des massacres, il attend un geste fort d'Emmanuel Macron sur le rôle de la France dans le génocide.
Demander pardon, ça ne va pas ramener nos morts. Mais au moins dire pardon, c'est de reconnaître qu'à l'époque, ce monsieur Mitterrand qui disait que le génocide au Rwanda ne veut rien dire, au moins lui va dire qu'on est égaux.
Au-delà des excuses, nombre de rescapés attendent que Paris livre la centaine de Rwandais génocidaires qui résideraient actuellement en France.
Si vraiment Macron aurait fait quelque chose vraiment fort, il faut arrêter ces génocidaires et les amener ici.
Par le passé, le ressentiment à l'égard des Français a pu être grand. Le travail réalisé depuis plusieurs années entre Paris et Kigali apaise les tensions. Mais les souvenirs sont encore vifs.
Les génocidaires ont fait la fête, que l'armée française arrive. Je regarde cette image des gens qui ont des machettes, qui acclament l'armée française. Comment voulez-vous que cette image quitte dans ma tête? Sans qu'au moins un responsable politique français dise « C'est fini, cette France n'existe plus ».
Et ce message, c'est Emmanuel Macron qui doit le porter ce matin. Kigali, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Et à 8h15 ce matin, Sonia Mabrouk reçoit François Graner, directeur de recherche au CNRS, auteur de l'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda.
Il n'est pas toujours respecté à la lettre, mais c'est aujourd'hui un texte incontournable. Le code de la route fête ses 100 ans et certains ne demandent qu'à l'appliquer.
On a choisi ce matin de vous parler de cet embouteillage, de tous ces candidats qui attendent en vain de passer le permis. C'est le dossier de la matinale. On en parle avec Aude Leroy et Aurélien Fleureau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Aude Leroy, la crise sanitaire a fait gonfler les files d'attente. Où est-ce qu'on en est ?
Eh bien, les délais pour passer le permis, qui étaient tombés à 42 jours en moyenne avant le premier confinement, tournent aujourd'hui autour de 80 jours. Et en Île-de-France, les délais ont été multipliés par 3. Alors, même si les inspecteurs disent que ça se résorbe, il y a néanmoins des jeunes en galère, comme Clément. Après un échec au permis, il a repris des cours et là, il attend une nouvelle date d'examen qui n'arrive pas.
Là, ça fait 6 mois que j'attends et tout ce qu'on me propose, c'est des heures de conduite à droite, à gauche.
mais sans réelle perspective de passer l'examen rapidement. Financièrement, ça devient très compliqué parce que je peux pas me permettre de prendre des heures sans avoir une date de passage. C'est de l'argent vraiment dépensé pour rien. Et je sais que je vais encore devoir reprendre des heures quand je vais avoir cette date.
Clément a déjà déboursé près de 3000 euros, c'est le double de ce que coûte habituellement un permis de conduire. Au total, 350 000 élèves inscrits n'ont pas eu la moindre leçon l'an dernier. C'est un tiers des postulants, autant de personnes revenues aujourd'hui sur les bancs et qui entraînent ce gigantesque embouteillage.
Et résultat, les modèles moins classiques tirent leur épingle du jeu. Aurélien Fleureau, c'est le cas des auto-écoles en ligne.
Oui, les chiffres sont impressionnants pour les principaux acteurs de ce marché. La plateforme Ornicar a vu les inscriptions augmenter de 35% à chaque période de confinement et a gagné plus de 400 000 utilisateurs en 2020. Du côté de la start-up En Voiture Simone, là aussi plus 35% d'inscrits et 450 000 candidats. Et pour lepermislibre.fr, c'est un chiffre d'affaires qui a bondi de 300% l'an dernier. Tous se développent. Ornicar vient de lever 100 millions d'euros, recrute des dizaines de moniteurs à travers la France et mise sur la formation en ligne pour le code de la route, comme l'explique Romain Durand, cofondateur du Permis Libre.
Très clairement, aujourd'hui, le code de la route n'a plus besoin de se faire en présentiel. Ça nous a aussi permis de développer des nouveaux contenus, des nouvelles formes d'apprentissage sur lesquelles aujourd'hui on investit beaucoup. Et c'est tout simplement une salle de code virtuelle sur laquelle on a en direct une enseignante de la conduite qui va faire passer des tests à des candidats qui peuvent poser des questions. Le en ligne fonctionne très très bien et en plus on arrive parfaitement à suivre les candidats et à suivre leur niveau.
Une accélération très nette liée à la crise sanitaire, mais aussi à une nouvelle génération de futurs conducteurs forcément plus à l'aise avec les outils numériques.
Et alors face à cette nouvelle concurrence, quelle est la réponse des auto-écoles classiques ?
Eh bien, elles évoluent, elles aussi. Cela passe principalement par la mise à disposition de simulateurs de conduite. Depuis la récente réforme du permis, les candidats ont le droit de réaliser 10 des 20 heures d'apprentissage avec simulateur, ce qui peut d'ailleurs alléger la facture d'une bonne centaine d'euros.
Merci Aurélien Fleureau et merci à Aude Leroy. C'était le dossier de la rédaction dans ce journal de 7h.
Trois jours après le meurtre de Stéphanie à Hayange, son compagnon a été mis en examen hier soir pour homicide sur conjoint. Cet homme est en détention provisoire, lui qui avait déjà fait l'objet d'une plainte. Et c'est bien ce qui révolte les habitants d'Hayange. Ils ont marché en silence hier. Arthur Mbaché.
Elle dépose une rose blanche sur le trottoir à l'endroit où Stéphanie est décédée dimanche soir. Samantha a fait une heure de route depuis chez elle à Forbach pour cette marche blanche.
Ça aurait pu être n'importe qui. De tuer déjà quelqu'un, une mère de famille, devant leur enfant, une petite fille qui va être traumatisée peut-être toute sa vie.
C'était connu, elle avait porté plainte pour ce qu'elle avait pu vivre. Ils l'ont laissé aller chez elle, assigner chez elle alors qu'il était violent. C'est malheureux, ça aurait jamais dû arriver.
Dans le silence de la marche blanche, de temps en temps, un éclat de voix. C'est qu'il est question de la plainte de Stéphanie contre son conjoint l'année dernière, plainte non transmise à la justice.
Inadmissible. Comment on peut déposer plainte et c'est pas suivi? Comment c'est possible au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, pourquoi ça n'a pas été suivi? Pourquoi c'est resté dans les bureaux? Il faut encore combien de femmes qui doivent mourir pour des dépôts de plainte? Il faut que ça change, il faut que la loi change, il faut que le gouvernement fasse quelque chose.
Les ministres Darmanin, Dupond-Moretti et Schiappa ont annoncé hier l'ouverture de deux enquêtes administratives pour faire la lumière sur ce féminicide. Hayange, Arthur Mbaché, Europe 1.
Alors que les vacances scolaires approchent, voilà le genre d'innovation qui pourrait nous faciliter la vie.
Et nous éviter quelques sautes d'humeur en voiture, sur des routes embouteillées ou dans des parkings bondés. La région PACA veut désengorger certains sites touristiques et a fait appel à l'application Waze, Clément Le Saffre.
Oui, ce partenariat est une première mondiale. L'idée, c'est de proposer des solutions alternatives aux touristes quand ils veulent se rendre dans un endroit déjà très fréquenté. Alors ça va concerner cet été les 8 parcs naturels de la région PACA, dont les Alpilles, le Mercantour et le Verdon. Concrètement, quand un automobiliste voudra s'y rendre en passant par Waze, si le site choisi est déjà bondé, l'application le signalera par une alerte et proposera soit un autre site du même parc naturel, soit un parking plus éloigné avec un système de navette. Pour Loïc Chauvelon, directeur général du comité régional de tourisme, c'est un moyen de mieux répartir les touristes.
Dès qu'on va un peu au-delà, mais ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure au-delà de là où on voulait aller, qui est le spot le plus connu, souvent vous pourrez vous retrouver tout seul dans un lieu aussi magique que celui qui est le plus connu. C'est une réalité de notre région. On a 60% de France à le Côte d'Azur de nos espaces qui sont dans des espaces naturels protégés.
Alors le dispositif demande quand même des aménagements, notamment en matière de transport en commun, mais la région est confiante. Elle s'appuie sur un premier test mené l'été dernier sur les 325 000 automobilistes qui s'étaient vus proposer des destinations alternatives. Environ 10% avaient changé leur plan pour des endroits moins fréquentés.
Les explications de Clément Le Saffre pour Europe 1.
Ça va nous faire voir du pays. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Quand une voie ferrée traverse une zone sauvage, quand des éoliennes sont installées en mer, quand on abat des arbres en Amazonie, eh bien ça fait du bruit. Ce bruit, son impact, c'est l'objet d'études de mon invité Michel-André, bioacousticien. Il a des solutions contre la pollution sonore. Plus que jamais, on écoute le monde changer dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, le mariage est une chose trop sérieuse pour que toute une vie ne suffise pas à y réfléchir. Après 7 ans de réflexion, la Suisse claque la porte au nez de l'Europe. Elle ne veut pas se laisser dicter sa politique migratoire.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1, l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La reprise est là. Le moral des chefs d'entreprise est au-dessus du niveau d'avant-crise. Le quoi qu'il en coûte a fonctionné au-delà des espérances.
Bah écoutez, quand on écoute les chefs d'entreprise, effectivement, on a un vrai sentiment d'optimisme. On sent que l'activité repart, que les carnets de commandes se remplissent. D'ailleurs, c'est ce que dit Geoffrey Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF. Et à Bercy, le débat sur la nécessité ou non d'un plan de relance supplémentaire est tranché. C'est inutile. L'économie repart très fort. Le plan de 100 milliards d'euros qui a été mis en œuvre sera suffisant. C'est ce que nous disent Bruno Le Maire et le ministre du Budget Olivier Dussopt, même si certains économistes proches du président continuent à plaider pour faire plus pour relancer l'économie.
Pour autant, Bercy n'est pas prêt de débrancher les aides.
En fait, le message de Bercy est assez subtil. C'est-à-dire, d'un côté, il va falloir sortir du quoi qu'il en coûte, synonyme d'envolée perpétuelle de la dette. Et puis de l'autre, il faut continuer à aider des secteurs les plus en difficulté. C'est pourquoi le gouvernement, je peux vous le dire ce matin, va présenter un collectif budgétaire prévoyant 15 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui sont destinés donc à financer des exonérations de charges pour les hôtels, les restaurants, le secteur du tourisme, à financer aussi de l'activité partielle de longue durée dans l'hôtellerie, mais aussi dans des secteurs industriels fragilisés comme l'automobile ou encore dans l'événementiel où le redémarrage va prendre beaucoup de temps.
Le gouvernement va aussi aider les entreprises à redresser leur situation financière ?
Alors oui, avec une mesure assez spectaculaire, bien qu'un peu technique, c'est la possibilité de reporter les déficits fiscaux sans limite de plafond. En clair, ça veut dire que les pertes enregistrées en 2020, l'année du Covid, pourront venir en déduction des bénéfices qui seront enregistrés cette année ou les suivantes. C'est une mesure très puissante qui va permettre à beaucoup d'entreprises d'alléger leurs factures fiscales, qui va aussi priver l'État d'importantes recettes fiscales, potentiellement plusieurs milliards, mais ça va soutenir la reprise et l'investissement. Et il serait étonnant qu'avec tout ça, la croissance ne dépasse pas cette année les 5% prévus par Bruno Le Maire.
On comprend bien qu'il y a des bonnes nouvelles et qu'elles ont un coût. Voilà. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'éclairage Échos. Il est 7h14. Vincent Hervouette est avec nous, le regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
La Suisse claque la porte après des années de négociations avec l'Union européenne pour trouver un accord institutionnel.
Oui, il y a des fiançailles qui durent si longtemps qu'elles sont faites pour être rompues. Ça fait plus de 10 ans que l'Union européenne fait le siège de la Suisse. 7 ans que les palabres ont commencé. À mi-course, Bruxelles s'est impatientée, estimant avoir fait assez de concessions. Les Suisses, eux, ont continué à négocier 3 ans de plus dans le vide. Et il y a un mois, leur président, dont toute l'Europe ignore le nom, faites l'expérience, c'est une colle. Le président de la Confédération helvétique s'appelle Guy Parmelin. C'est un agriculteur ultra-conservateur. Il s'est donc transporté à Bruxelles, où il a été reçu par la présidente Ursula von der Leyen, dont toute l'Europe connaît le nom, le prénom, le visage, la silhouette et la maladresse. Et ils ne sont pas tombés d'accord. Le Suisse est donc rentré chez lui. Il a pris le temps de la réflexion. Et puis hier, il a claqué la porte, mais il l'a fait à sa manière. Le président Parmelin a dit « On est au départ d'un nouveau chapitre des relations Suisse-Union européenne ». Ça veut dire « Allez vous faire voir, mais en Suisse ».
Sans l'accent. Sur quoi les négociations ont-elles dérapé, Vincent ?
Alors l'euro au salaire que les Suisses voulaient protéger, les aides publiques aux entreprises helvétiques et la libre circulation des personnes. Ce point précis a été déterminant. Les Suisses redoutaient que l'afflux d'étrangers mette en faillite leur système d'aide sociale et ils refusent que l'Europe dicte leur politique migratoire. La Commission a rejeté avec hauteur les préventions de ses petits et irréductibles voisins et elle a réagi comme on pouvait s'y attendre.
C'est-à-dire ?
Le même discours qu'avec Londres après le Brexit. La Commission européenne ne se remet jamais en cause. Quand elle se fait plaquer, elle promet des représailles. Les Suisses prennent la menace au sérieux puisque leurs principaux clients sont leurs voisins et qu'ils voudraient accéder au marché unique. Alors on verra si les nuages de sauterelles s'abattent sur les Alpes comme ils devaient dévaster la City. Londres et Berne sont deux vieilles démocraties où seul le vote du peuple est souverain. Guy Parmelin ne ressemble guère à Boris Johnson, mais l'un comme l'autre font la politique de leur électorat, pour le meilleur et pour le pire.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent. Il est 7h16 sur Europe 1 et dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern.
Quand Laurent Cabrol nous dit qu'il va pleuvoir comme à Gravelotte, je me demande d'où vient cette expression.
Eh bien la réponse, c'est dans 2 minutes sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin qui nous a rejoint. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les joueurs de l'équipe de France de foot sont arrivés hier à Clairefontaine pour préparer l'Euro. Parmi eux, évidemment, Karim Benzema. Ça fait une semaine qu'on en parle, qu'on ne parle que de son retour en bleu. Et pour vous maintenant, eh ben, il va falloir arrêter, sinon ça sera néfaste à l'équipe de France.
Alors je vais d'abord vérifier, est-ce que tout le monde dans le pays a bien donné son avis sur le retour de Karim Benzema en équipe de France? Oui.
Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais.
C'est bon, voilà. À partir du moment où on a même entendu certains hommes politiques expliquer que l'attaquant n'aimait pas la France, on a fait plus que le tour de la question. On n'aurait même jamais dû entendre ça. Franchement, vous croyez qu'il serait là aujourd'hui si c'était le cas? C'est lui qui, ce qui lui fait gagner de l'argent, c'est son club, le Real Madrid, c'est pas l'équipe de France. Donc il aurait pu tourner la page sans dommage, il l'a pas fait. C'est bien qu'il a envie de représenter son pays. Allez, on passe à autre chose. Hier, c'est encore Karim Benzema qui avait la vedette à Clairefontaine. On s'est improvisé critique de mode hein, pour détailler sa tenue. On a décrypté son sourire et sa gestuelle pour être bien sûr qu'il était content d'être là. C'est normal, un retour pareil après 2058 jours d'absence. Oui, il faut croire que c'est important vous voyez, de tracer des petits bâtons sur les murs pour faire un décompte exact.
Je vous disais, vous avez compté, non?
Exactement. Ça nous intéresse tous, ou presque, on ne va pas le nier. Maintenant, si on pouvait éviter de chercher à savoir si Karim Benzema opte pour le beurre doux ou le beurre salé au petit déjeuner et en tirer des conclusions hasardeuses, ce serait pas mal parce que là, ça va vite devenir malsain tout ça.
Cela dit, on n'a pas grand-chose à dire hein, quand on les voit monter ces 4-5 marches avant de rentrer. Un peu d'empathie, j'allais dire, voilà, pour nos confrères là-dessus. Se focaliser uniquement sur Karim Benzema, Virginie, ça peut aussi être un danger pour l'équipe de France.
J'ai un scoop, le football reste un sport collectif et l'attaquant du Real Madrid ne va pas gagner l'Euro tout seul. Il y a une équipe qui se prépare et doit être un peu repensée hein, avec Karim Benzema dans ses rangs. Et puis il y a aussi des susceptibilités à ménager, des joueurs de haut niveau. Il y en a quelques-uns dans les rangs des Bleus. Karim Benzema l'a dit, il ne veut surtout pas leur faire d'ombre. Heureusement, c'est ensemble qu'on veut les voir. Et ce serait bien de ne pas se concentrer uniquement sur le comportement que Benzema va avoir avec les autres, surtout si c'est pour guetter une éventuelle erreur de sa part. On sait déjà que tout autre résultat qu'une victoire finale pour l'équipe de France dans cet Euro amènerait les vautours à désigner Karim Benzema comme seul responsable. C'est pas comme ça que ça marche. Les Bleus, c'est une équipe. L'attaquant est un atout supplémentaire. Mais il n'est pas la garantie absolue de conquérir un nouveau trophée. Ni plus, ni moins que les autres, finalement. Son retour, Didier Deschamps a dit hier que c'était un non-événement. On va peut-être rien exagérer non plus, mais le sélectionneur a en partie raison. Ce qui compte maintenant, c'est l'équipe de France dans son ensemble.
Eh bien écoutez Virginie Fulpin, on va parler de cette équipe de France et on va monter en pression comme ça jusqu'à l'Euro qui démarre dans quelques semaines maintenant. Merci Virginie, l'édito sport tous les matins sur Europe 1, hein, il est 7h22 et nous retrouvons Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est souvent le cas ici, une expression qui nous vient de l'univers militaire. Pourquoi quand on a droit à une averse de tous les diables, on dit, enfin moi je dis, il pleut comme à Gravelotte.
Oui, sauf que je crois Stéphane que vous êtes un des derniers en France à encore le dire. Je reconnais bien là votre amour pour les expressions en voie de disparition. J'imagine que c'est une bataille qui a eu lieu à Gravelotte.
Oh, on ne peut rien vous cacher, Mathieu. Direction la Moselle, en août 1870, le conflit franco-prussien est à son comble. C'est une litote car ça va pleuvoir comme à Gravelotte. En fait, on ne sait pas si c'est le nombre de victimes que va faire cette guerre ou le tir extrêmement fourni que va faire naître cette formule, mais on peut raisonnablement penser que c'est l'alliance des deux. Rendez-vous compte, en une seule nuit, on compte à 6500 morts, 21 200 blessés et 4 420 disparus. Et encore, ce ne sont que les estimations de l'armée. Dans ces circonstances, il est bien malaisé de parler de victoire d'un camp ou d'un autre. Quoi qu'il en soit, le souvenir de la bataille restera dans la conscience collective et donnera lieu à cette expression météorologique, mais aussi quand on déplore de nombreuses pertes. Pour être complet, sachez aujourd'hui que pour dire qu'il pleut aux États-Unis, on dit « It's raining like a cow pissing on a flat rock ». Il pleut comme une vache qui pisse sur un caillou plat. Je ne connaissais pas l'expression dans son intégralité. En gallois, on dit qu'il pleut des vieilles dames et des bâtons, comprenne qui pourra. Et enfin, en néerlandais, on préfère dire « il pleut des tuyaux de pipe. Faites attention à ne pas vous blesser. Allez, terminons avec un proverbe japonais qui dit « La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé ». Moi qui tente de réparer les vieilles demeures, je ne le sais que trop.
Oui, 16h, 18h, c'est historiquement vôtre sur Europe 1 avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre, Jules Bergeret, un général qui a enflammé Paris, et notamment le palais des Tuileries durant la Commune de Paris, et laissé son nom dans l'histoire des communards. Et puis Johnny Hallyday, leur point commun ?
Leur point commun ?
Bah, ils ont allumé le feu.
Ah ouais, je l'avais presque. 16h, 18h, c'est historiquement vôtre avec Mathieu Noël. Il est 7h25 et dans un tout petit instant, la météo de Laurent Cabrol. A tout de suite.
Il pleut pas comme un garblot. Hein.
Restez bien sur Europe 1. 7h28 sur Europe 1, la météo de Laurent Cabrol.
Fini les pluies, fini la pluie comme un gravelotte,
n'est-ce pas,
Stéphane Bern. Aujourd'hui, c'est plutôt du pipi de chat. C'est pas très joli, mais c'est encore une expression à propos de la pluie.
C'est Cabrol qui marque son territoire.
Voilà. C'est à vous. Alors, il y a des petites pluies. Hein. C'est Angers, Auxerre, Langres, Luxeuil, Belfort, Colmar sont des endroits où il pleut encore un petit peu, où il a plu, mais de toute manière, c'est la fin. Hein. C'est vraiment la fin. Hier, j'étais un peu trop optimiste, c'est vrai, mais aujourd'hui, vraiment, je vous promets que ce sera la fin dans l'après-midi. Pratiquement toute la France sera sur un temps vraiment ensoleillé. Alors très chaud dans le sud, parce que nous atteindrons les 28 degrés à Alès, à Narbonne, 25 à Marseille, 22, 24 à Bordeaux, sous abri, hein, 23 à Lyon, 21 à Paris, à Rennes, etc. Vous voyez que ce sont des températures quand même bien élevées. Et puis, dans le courant de la journée, sur Verdun, Sochaux, 17 degrés, 18 degrés à Tourcoing, à Étaples, à Lille. Et nous aurons 17 degrés aussi à Plombières-les-Bains, qui est une commune des Vosges, où on l'appelle la ville aux 1000 balcons. Vous avez 1000 balcons dans la ville, c'est magnifique. Allez la voir, cette belle ville des Vosges.
Et on va pouvoir profiter du balcon, donc merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Lénaïc Monnier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Dès qu'on est vacciné et qu'on se retrouve en famille, entre amis, on a tendance à se rapprocher un peu, à se resserrer la main, à se refaire la bise. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait que le virus circule toujours.
Le vaccin contre le Covid n'est pas un totem d'immunité. Avant de s'affranchir des gestes barrières, il faudra patienter. Et d'ailleurs, ce virus, on ne sait toujours pas d'où il vient, erreur de labo ou origine animale. En tout cas, Joe Biden veut des réponses et puis une expo pour toute la famille. Ce sera à la fin du journal.
Et juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le bioacousticien Michel André pour l'ouverture du sommet Change Now 2021. On va écouter le monde changer au sens propre du terme. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Une drôle d'ambiance s'installe dans l'univers politique en ce moment. Des insultes, des noms d'oiseaux, des menaces de procès et dire qu'il reste un an avant l'élection présidentielle.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale aujourd'hui, Sonia Mabrouk, reçoit François Graner, directeur de recherche au CNRS, auteur de L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a beaucoup parlé cette semaine de la perspective d'un été plus léger, plus serein. C'est vrai que la vaccination a pris un bon rythme, mais pour autant, qui dit vacciné ne dit pas intégralement protégé. Donc, Victor Dolan, ça vaut peut-être la peine de le rappeler, il ne faut pas oublier encore un petit moment les gestes barrières.
Oui, aussitôt vaccinés, certaines personnes pensent que leur immunité est acquise. Dans son unité Covid de Douzely, l'infectiologue de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, Benjamin Davido, a récemment admis deux patients qui venaient tout juste de recevoir leur première injection.
Ils ont probablement pas prêté attention et relâché les gestes barrières. Ils se sont contaminés avant que le vaccin ait pu faire effet. Le diagnostic souvent est retardé parce que les gens se pensent protégés et pensent à tous les diagnostics sauf au Covid. C'est considéré quelque part comme un échec de la vaccination alors que ce n'en est pas un.
Il rappelle que le vaccin commence à produire ses effets sur l'organisme entre 14 et 20 jours après la première injection, mais pas avant. Jean-Michel Constantin, chef de la réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, fait le même constat dans son service.
Dès qu'on est vacciné et qu'on se retrouve en famille, entre amis, on a tendance à se rapprocher un peu, à se resserrer la main, à se refaire la bise. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait que le virus circule toujours. Il circule de moins en moins. Plus on est vacciné, moins ça circule, mais il y en a toujours.
Ces médecins sont catégoriques, il faut attendre 15 jours après la deuxième injection pour être protégé au maximum.
Les précisions de Victor Dolan pour Europe 1.
Joe Biden, lui, veut en avoir le cœur net. L'origine du virus provient-elle d'un accident de laboratoire ?
Thèse longtemps réfutée puisque c'est le fameux pangolin qui avait été accusé. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain ne fait pas franchement confiance à la Chine dans cette enquête. Du coup, il met la pression sur ses services de renseignement, à eux de mener l'enquête.
Oui, et c'est d'abord un virage pour l'administration Biden. Jusque-là, le président américain estimait que l'OMS devait diriger l'enquête sur les origines du virus. Joe Biden demande désormais à ses services de renseignement un rapport sous 90 jours pour parvenir à une conclusion définitive. De quoi mettre davantage de pression sur Pékin. La Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole, renouvelle d'ailleurs son appel à davantage de transparence de la part de la Chine. Nous continuerons à faire pression sur la Chine pour qu'elle participe à une enquête internationale complète, transparente, est fondée sur des preuves, avec l'accès nécessaire pour faire toute la lumière sur un virus qui a fait plus de 3 millions de victimes dans le monde. Alors pourquoi ce changement ? Eh bien parce que la piste d'un accident est devenue plus crédible ces derniers jours, avec d'abord la publication dans la revue Science d'un article signé par d'éminents scientifiques. Ils y affirment que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire reste viable, au même titre que celle d'une transmission naturelle du virus entre l'animal et l'homme. Puis en début de semaine, le Wall Street Journal a révélé un rapport confidentiel du renseignement américain. On y apprend que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan auraient été hospitalisés dès le mois de novembre 2019, soit avant le début de la pandémie.
Alexis Guyot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
C'est une phrase qui a du mal à passer, celle de Jean-Yves Le Drian sur un possible risque d'apartheid en Israël.
Déclaration du ministre des Affaires étrangères alors qu'il était interrogé sur les violences récentes entre Israéliens et Palestiniens. Voici la réponse que lui a apportée le premier ministre Benjamin Netanyahou.
Le ministre a déclaré qu'Israël pourrait devenir un état d'apartheid. Une affirmation éhontée, fausse et sans fondement. Dans l'état d'Israël, tous les citoyens sont égaux devant la loi, peu importe leur origine. L'état d'Israël est un modèle de démocratie et de droits humains dans la région, la seule démocratie de la région. Ainsi fut-il et ainsi sera toujours. Nous n'accepterons aucune leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Dans l'actualité également, on voit de plus en plus de femmes à la tête des entreprises.
Et ça se confirme partout dans le monde. 106 pays ont participé à une étude dirigée par l'organisation de jeunes dirigeants. Et ce qui en ressort, c'est que pour 57% des interrogés, la présence des femmes est plus visible. Alors la visibilité, c'est bien, mais dans les faits, c'est quand même moins probant. 5% des directeurs généraux dans le monde sont des directrices générales.
Si vous vivez à Paris ou que vous êtes de passage, Europe 1 vous conseille ce matin une exposition qui saura séduire même les plus jeunes.
Oui, on commence à lire Astérix quand on est tout petit et le musée Mayol l'a bien compris avec un hommage à Uderzo, le dessinateur du petit moustachu, Diane Chénouda.
Le jeune Uderzo est tombé tout petit dans la potion magique du dessin. Comme on le voit dès ses premiers croquis d'enfant, ses merveilleux dessins de poissons. Sa fille, Sylvie Uderzo.
Il a dessiné très tôt et extrêmement bien très tôt. Et c'est pour ça qu'on a voulu montrer qu'à travers ses cahiers d'école du primaire, combien son dessin était déjà extrêmement soigné, et puis extrêmement précis, puis extrêmement talentueux. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de se faire remarquer par le directeur de son école et qui lui avait offert sa première boîte de peinture.
Puis en 51, c'est la rencontre avec René Goscinny et quelques années plus tard, la naissance d'Astérix.
Mythique, Astérix le Gaulois. Là, il y a juste la couverture d'Astérix le Gaulois, mais en encre de Chine, qui est assez rarissime. Il y a toujours un intérêt particulier à voir les planches à leur vrai format. Là, on découvre vraiment la réalité du dessin, en fait. Donc voilà, on les a sortis avec beaucoup d'émotion pour lui rendre cet hommage. Et on le devait surtout à son public.
250 planches à l'encre de Chine et des dessins au crayon, tout aussi fascinants, de l'auteur de la BD la plus traduite au monde.
Uderzo, comme une potion magique, c'est le nom de l'expo qui débute aujourd'hui au musée Mayol. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 30 septembre.
Merci beaucoup, Léna Aigmonier. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, je vous l'ai dit, le bioacousticien Michel André, on va écouter la nature, on va écouter le monde tout court, comme j'aime le dire, et puis on va écouter du jazz aussi, le tête-à-tête Europe Matin, dans un instant. Mais d'abord, vous l'attendez, la touche à Bertrand Chamerois et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Ils font croire qu'ils sont amis devant les caméras alors qu'ils ne peuvent pas se piffrer. Je ne parle pas des acteurs de Friends, mais des acteurs de la gauche.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de l'intouchable regard de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, les fans sont en ébullition. C'est ça vrai. Y est, c'est aujourd'hui qu'est diffusé aux États-Unis l'épisode spécial de Friends, The Reunion. 17 ans après l'arrêt de la série culte, les acteurs se retrouvent pour un show exceptionnel en France. C'est TF1 qui diffusera ses retrouvailles prochainement. Mais si l'impatience vous ronge, sachez qu'une autre bande mythique s'est réunie en France. Le dernier épisode du sitcom a été tourné en début de semaine. Après Friends, The Reunion, découvrez
Friends de gauche, The Union. Starring Olivier Faure, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Karim Adeli, Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann, Julien Bayou, Éric Coquerel, Éric Piolle, Sophie Taillé-Pollion, etc., etc., etc. Ouais, Friends de gauche, c'est la seule série où le générique est plus long que l'épisode lui-même. Ah, ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble, les amis. Excuse-moi, tu peux nous rappeler pourquoi on se réunit, Olivier ? Bah, pour gagner la présidentielle en 2022. Bon allez, on fait un jeu. Je vous propose qu'on rédige un projet commun. Alors, quelle est notre priorité ? L'écologie, la question sociale, l'Europe, la lutte contre la précarité. Mettre des plombs en plastique jaune partout. Stop ! Et arrête avec tes plombs en plastoc, Anne, s'il te plaît. Et puis, si on veut gagner, il faut qu'on respecte notre pacte de non-agression. Bon, écoutez, je vais chercher des idées dans la cuisine. J'ai un vieux programme au congélo. Bien assaisonné, ça peut peut-être... Ah, putain ! J'ai marché sur un ego. Qui a encore laissé traîner son ego ?
C'est moi !
Ah bah ouais, mais Jean-Luc, t'es gentil, mais si tu réfléchis de manière égoïste, on n'y arrivera jamais. On s'était mis d'accord sur l'importance de s'unir, et depuis, alors les insoumis, vous êtes partis en campagne de votre côté, les communistes, vous avez choisi Fabien Roussel pour vous représenter, vous les verts, vous voulez une primaire, on n'y arrivera jamais. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie début juillet pour décider de ce qu'on décidera de décider. Non, franchement, Olive, t'es sûr de ton coup ? L'union de la gauche, plus ça va, plus je me dis que se réunir des années après, c'est pas forcément une bonne idée. La nostalgie, c'est bien, mais généralement, on finit toujours par décevoir le public. Souviens-toi des bronzés trois. La gauche va-t-elle finir par se mettre d'accord ? Les divisions vont-elles disparaître ? L'amitié finira-t-elle par triompher ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Friends of Gauche, The Union. Ils vous vendent l'ambiance de Friends, mais ça ressemble surtout à Game of Thrones.
C'est pas faux.
Je sais pas si c'est Friends ou AB Productions. Hein.
Oui, là, c'était plus
que Hélène et les garçons, Hélène et les premier baiser, tout ça. Merci. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça.
D'être drôle.
Et là, non, rien. Vous voyez, c'était pas bien. La touche âme tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand. Et à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média, bien sûr. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
L'ouverture aujourd'hui du 4e sommet Change Now à Paris. Le laboratoire, en fait, c'est une sorte d'exposition universelle des solutions pour la planète. Réchauffement, pesticides, plastique. On ne parle pourtant jamais du bruit, la pollution sonore. Alerte et solution avec mon invité qui participera au sommet, directeur de laboratoire à l'Université Polytechnique de Barcelone, le bioacousticien Michel André est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Michel André.
Bonjour Mathieu.
Alors, on pourrait entendre dans bioacoustique le son de la vie, si on traduisait, mais ce que vous, vous dites, c'est que le volume et la diversité sonore, la bioacoustique, c'est un bon thermomètre de l'écologie d'un milieu.
Eh bien oui, quand on écoute le son de la vie, on est capable de prendre le pouls de la planète et de comprendre dans quel état de conservation elle se trouve.
Alors comment est-ce que vous travaillez ? On va faire simple, je sais que vous revenez tout juste cette semaine d'Amazonie, qu'est-ce que vous y faisiez ?
Ah oui, donc j'y suis revenu depuis hier soir et donc je suis parti en expédition. Alors en Amazonie, les échanges et les analyses scientifiques qui sont faites jusqu'à maintenant, ou qui étaient faites jusqu'à maintenant, se basaient sur des échantillons et on extrapolait ces résultats sur le reste de l'Amazonie, puisqu'on sait que c'est une forêt impénétrable. Alors que la technologie que nous avons, qui est une technologie qui se base sur l'écoute de ces sons, ce sont des capteurs intelligents, des oreilles intelligentes.
Alors oui, pour capter les sons de la planète, il faut des micros particuliers. Vous étiez en train d'en parler, je veux dire que c'est très technique comme métier finalement.
Bien oui, on sait bien que l'homme est limité dans sa capacité d'entendre certains sons. Or, la nature produit des sons bien au-delà de notre propre capacité de les percevoir. Eh bien, nos micros sont des micros qui sont capables d'enregistrer et d'analyser ces sons que nous ne percevons pas. Donc, nous découvrons une dimension nouvelle. Nous avons ce spectre animal qui va de très basse fréquence dans les infrasons humains jusqu'aux ultrasons humains. Donc, nous ne sommes toujours pas capables d'entendre sans l'aide de ces micros adaptés. On fait un zoom sur ces images sonores, en fait, dans ce paysage que vous avez entendu, donc qui est absolument une complexité incroyable, ce sont des milliers de sons qui se mélangent. Donc, en étant à l'écoute de ces sons, on arrive à faire un diagnostic de l'état de santé de l'Amazonie.
Je sais que vous travaillez aussi en Afrique, en Asie. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on écoute là ?
Nous sommes en Inde qui est un pays immense, où il y a beaucoup de faune sauvage. C'est un des pays où il y a une faune absolument incroyable. Et dans cette faune sauvage, il y a des éléphants. Et ces éléphants-là sont malheureusement menacés par une activité humaine qui est envahissante. Ces déploiements de chemins de fer, eh bien, ces chemins de fer croisent les territoires de ces éléphants qui se voient obligés de traverser ces voies ferrées. Et malheureusement, depuis quelques années, on voit des centaines d'éléphants qui meurent par collision avec ces trains. Alors les trains, on ne peut pas les imaginer comme nos trains ici en Europe. Ce sont des trains qui sont absolument, on dirait des tanks. Les autres éléphants qui sont à côté voient leurs compagnons mourir et deviennent agressifs. Ils attaquent les trains, ils attaquent les villages. Eh bien, nous mettons en place des capteurs acoustiques, les mêmes dont nous avons parlé, qui sont capables, encore une fois, d'extraire les sons produits par les éléphants, tant ceux qu'ils produisent eux, comme on a entendu, au niveau des barrissements, mais aussi quand ils marchent, quand ils cassent des branches, quand ils se nourrissent, pour interpeller, pour alerter en temps réel les chauffeurs de train, ou un éléphant est sur le point de traverser, donc il va pouvoir freiner et laisser passer cet éléphant avant qu'il ne le tue.
Je quitte l'Inde et je pense à ce débat qui revient régulièrement chez nous, celui des éoliennes. C'est vous, par exemple, les bioacousticiens qui mesuraient l'impact dans l'air ou sur la faune sous-marine, par exemple ?
Alors oui, alors il est intéressant de parler de la pollution sonore dans l'eau. C'est la pollution la moins connue, elle est invisible. Eh bien, la pollution sonore qui est produite par absolument toutes les activités humaines, que ce soit le transport maritime, la recherche de pétrole, les manœuvres militaires, la construction de plateformes océanographiques et bien sûr la construction de ces parcs éoliennes qui malheureusement produisent des sons d'une telle intensité que dans un rayon de 500 mètres autour de cette construction, eh bien, la faune et la flore sont impactées avec des effets qui sont souvent irréversibles.
Vous, ce que vous dites, Michel André, c'est que c'est le bruit qui tue les océans.
Les sons se propagent dans l'eau 5 fois plus vite que dans l'air, donc à 1,5 km par seconde. Et donc c'est vraiment une pollution qui se propage, enfin tous les sons, c'est d'ailleurs ce qui permet aux habitants de la mer, le son est la vie pour eux. Le son est bien le support de la vie, et quand on pollue ce canal de communication, eh bien, on met en danger tous les équilibres de l'océan et bien entendu de la planète.
On comprend bien avec vous que dans l'obscurité des fonds marins, quand il n'y a plus de lumière, il reste le son. Et si la situation est alarmante, je voulais quand même qu'on écoute ces notes. Finalement, c'est très musical, hein, la vie sous l'eau.
Ce sont des sons de phoques et de baleines. Eh bien, ce que nous venons d'entendre, c'est vraiment un concert vital. C'est un concert où l'information qui est transmise est la garante de la survie et de l'équilibre de cet écosystème qui est fragilisé. Ce qu'on a entendu, c'est en Antarctique, donc ça a été enregistré en mars dernier. Et c'est, voilà, c'est absolument fascinant sous la banquise de pouvoir enregistrer ces animaux qui communiquent à distance incroyable et qui communiquent leur survie.
Ça veut dire quoi le silence pour vous, Michel André ?
Le silence, il est assourdissant. Donc nous avons silencié cette nature, nous l'avons empêché de s'exprimer. Eh bien, ce silence, c'est celui que nous avons imposé à la nature alors qu'elle nous crie sans cesse des messages pour nous ouvrir les yeux. Et il suffit de tendre l'oreille, même à Paris, même dans une grande ville, les oiseaux, le vent dans les branches, la pluie communiquent. Et je crois qu'il est temps de l'écouter avant qu'il ne soit trop tard.
Michel André, vous êtes bioacousticien et je me prends à vous imaginer entre la jungle et l'océan, entre les aéroports et les quais de gare. Vous écoutez quoi comme musique ?
Je suis très sensible à la musique, en particulier le jazz. C'est une improvisation. C'est un peu ce que sans doute la nature produit au niveau de tous ces animaux qui sont attentifs au solo de certains individus qui les rassurent. On est conscient que les animaux produisent des sons qui favorisent la croissance des plantes qui elles-mêmes produisent des fruits que les animaux mangent. Et donc il y a ce cercle vertueux autour de ces sons, et j'ai plaisir à penser que ces mini-concerts de jazz qui se répètent dans le monde entier est vraiment un but de conservation conscient par ces êtres vivants quand ils les produisent.
Merci Michel André.
Merci Mathieu.
Le bio.
bioacousticien Michel André était mon invité, et Miles Davis, évidemment, sur Europe 1, pour terminer. Il est 7h50, très bon réveil à tous. Dans un instant, l'édito politique, Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Depuis la manifestation des policiers, le niveau de tension dans la politique est monté de plusieurs crans.
Écoutez, est-ce que c'est le début du déconfinement qui leur fait perdre le contrôle ? Est-ce que les réseaux sociaux finissent par désinhiber toute la parole publique ? Nous sommes encore à un mois des régionales et surtout à un an d'une élection évidemment cruciale. Et déjà, la violence de certaines déclarations nous projette dans une démocratie pas vraiment civilisée. Alors, je ne fais évidemment pas allusion aux propos d'Audrey Pulvar qui avait trouvé glaçante la manifestation des forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale.
Gérald Darmanin avait très vite réagi.
Et très mal réagi, avec une plainte en diffamation contre la tête de liste socialiste pour les régionales en Ile-de-France. Une erreur politique que beaucoup de ministres et de parlementaires de la majorité lui ont reproché. L'Élysée, d'ailleurs, n'avait pas davantage apprécié. En tout cas, cet excès de zèle de la part du ministre de l'Intérieur a créé un drôle de climat. Si tous les politiques réglaient leurs débats devant les tribunaux, la vie publique prendrait un bien mauvais tour. Mais attention, à l'inverse, on entend et on lit en ce moment des propos qui, eux, mériteraient certainement une réaction et peut-être même une réaction judiciaire.
Vous parliez de la violence de certaines déclarations ?
Ben oui, avec deux exemples très récents de dérapages affligeants. L'un, exécuté par un professionnel de la provocation, Jean-Marie Bigard, qui a profité d'une manifestation des anti-vaccins pour agonir d'injures Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Agnès Buzyn, qui l'avait précédé au ministère. Alors je ne vais pas répéter ces insultes personnelles. Elles sont à la hauteur de ce personnage qui s'est spécialisé dans l'intense vulgarité. Marlène Schiappa a préféré mettre ça, d'ailleurs, sur le compte de l'alcoolisme. Sauf que tout a pris une autre dimension lorsque Bigard a suggéré de remplacer le pass sanitaire par le port de l'étoile jaune. Pas sûr qu'il faille laisser passer ce genre d'infamie. L'autre exemple, eh bien, il est moins violent, mais pas moins préoccupant. Il vient de Philippe de Villiers.
Alors oui, il a fait des déclarations à la suite de l'opération McFly-Carlito à l'Élysée.
Alors, c'est peu dire qu'il n'a manifestement pas supporté la présence d'Emmanuel Macron dimanche dernier sur YouTube. Il vient de publier un texte d'une violence inconcevable, parlant de la pitrerie du chef de l'État, de ses borborygmes, de sa logorée, comme une sorte de long cri de détestation à l'encontre d'un président dont il avait cru un moment avoir l'oreille. Est-ce par dépit, est-ce par rancœur ? En tout cas, un tel niveau de colère exprimé avec une telle brutalité par quelqu'un qui est suivi par de nombreux Français, eh bien c'est assez inquiétant. Personne, surtout lorsqu'on a une haute idée de l'image de la France, personne n'a à gagner à ce que la politique s'abaisse à ce point.
Votre édito politique, c'est tous les matins. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Il est 7h55. Et tous les jours, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le chercheur François Graner, membre de l'association Survie et co-auteur de L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda. Et Alain Juppé voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour à la BBC.
La BBC.
Oui, le trio Béliard, Bétou,
oh,
Cabrol.
Oh, joli.
Oui, pardonnez-moi cette légèreté. La triplette de la matinale. Écoutez, sur le génocide rwandais, effectivement, j'étais en poste à l'époque. J'exprimais d'ailleurs certains regrets. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà.
Sinon, ouais. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu beau temps cette semaine. C'est vrai, là, il a fait froid, M. Cabrol. Hein, en printemps, comme nous le disions récemment, il n'y a plus de saison. Hein. Je regardais, tiens, vous faites votre chemise, M. Béliard, c'est du tergal, cette petite piquette, ça se repasse facilement. Ouais. C'est...
Non, mais M. Juppé, restons, si vous le voulez bien, sur le Rwanda.
Oui. Oui, vous étonnez, oui. Hey. Écoutez, que puis-je vous dire sur le Rwanda ? Alors, il faut savoir que sa capitale, bien sûr, ça, M. Bétou le sait, c'est Kigali. Ouais, c'est un pays finalement assez réduit, assez petit. Ouais. Il fait souvent très beau, d'ailleurs. Je crois qu'on a tout dit. Inutile que...
C'est en Afrique.
Que M. Raphaël Doridan, tout à l'heure, se déplace pour rien. À mon avis, on a fait le tour du sujet sur le Rwanda. Et puis, en plus, on n'a plus le temps, là. Parlons plutôt du retour de Karim Benzema en équipe de France. Votre opinion, M. Béliard.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours à 7h55. Ce matin, François Graner, le chercheur François Graner, au micro Tonia Mabrouk et Nicolas Canteloup. On vous retrouve à 8h45 pour la revue de presque. Il est 7h57. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Je vais en chanter une. Il est revenu le temps d'anticyclone. Il est revenu le temps du muet. Non, il est revenu notre anticyclone. Il est là, il est bel et bien là. Il est sur la moitié sud de la France. Il rayonne, il fait bon, il fait chaud et il est en train de gagner la moitié nord. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il fasse beau, qu'il fait beau, alors nous parlons. Ça veut dire qu'il va faire beau. Parce que là, en ce moment, la Sologne, la région de Blois, les vallées de la Loire, d'une manière générale, mais aussi Langres, etc., les régions de l'Est, sont sous de petites pluies, de toutes petites pluies. Mais tout ceci va s'en aller. L'anticyclone, donc les pressions vont pousser. Si vous avez un baromètre, tac, 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 vous tapotez, vous voyez, ah, il monte. Eh bien, ça veut dire que les pressions montent et cela veut dire que le beau temps arrive. Et vous aurez donc un temps très agréable dans la journée avec des températures à la hausse. 21 degrés à Paris, 22 à Nantes, 23 à Lyon, 24 à Bordeaux, 28 à Narbonne. Et pour les plus fraîches, allez, 17 à Sochaux, 18 à Tourcoing et 18 degrés aussi à Lille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.